À notre chronique politique cette semaine avec Gaétan Lelièvre, on va parler d'élections fédérales. C'est vrai que ce n'est pas la mode de ces jours-ci, mais quand même, il faudra s'y faire et s'y préparer parce que ça va commencer. Bien, ça a même déjà commencé un peu. Il y a quelques petits gestes par-ci, par-là. Alors, Gaétan Lelièvre, bonjour.
Bonjour.
Je pense que c'est un bon sujet d'actualité parce que là, on voit souvent sur la scène régionale ou nationale bon, beaucoup de sujets ou les mêmes sujets qu'on traite depuis les derniers temps. Mais là, la question des élections fédérales commence à être intéressante.
Oui, la saga des annonces entre Québec et Ottawa pour certaines autoroutes. On voit qu'il y a une partie de bras de fer qui semble vouloir s'installer entre le gouvernement de M. Legault et le gouvernement Trudeau.
Bon, chez nous, les dossiers qui risquent de revenir dans cette campagne-là, l'assurance-emploi, je pense qu'on ne se trompe pas.
Oui, l'assurance-emploi, selon moi, va être encore une priorité de la région. On sait qu'il y a eu... Il y a eu des allègements d'apporter à la réforme de l'assurance-emploi, mais ce n'est pas tout. Toutes les attentes n'ont pas été répondues. Quand on entend les regroupements de chômeurs, c'est clair qu'il y a encore du travail à faire pour adapter la réforme là, à la saisonnalité des régions comme la Gaspésie. Donc là-dessus, la ministre Boutillier va probablement se faire interpeller pour convaincre son gouvernement de s'engager à aller encore un peu plus loin avec les mesures là, pour... adapter l'assurance-emploi à notre réalité gaspésienne.
Oui, parce qu'on parle encore du trou noir, hein, cette fameuse période où les gens sont entre deux chaises. Là,
oui, puis les gens vont... j'ai entendu beaucoup de politiciens et politiciennes là, nous dire « Bon, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on a un taux de chômage
autour de 14,
qui est encore autour de 14 % même si c'est un des plus bas de l'histoire. Mais en même temps, il y a une pénurie d'employés. Ouais. Mais il faut distinguer les deux éléments. Là. Oui, on a une pénurie d'employés, c'est clair en Gaspésie comme ailleurs au Québec, mais il faut faire attention. Si on a une pénurie d'employés dans le secteur touristique et on a la même pénurie dans le domaine des pêches, mais là, c'est deux saisons qui sont à peu près identiques. Donc, oui, il y a des gens qui travaillent 20, 25 semaines dans le secteur de la pêche, par exemple, mais on ne va pas leur demander d'aller pallier les besoins dans l'industrie touristique parce que ça se passe durant la même saison, ça se passe durant la période estivale. Donc, il faut faire attention là, de faire des associations avec les statistiques, les chiffres. Ce n'est pas si simple que ça. Hein? On a beaucoup de problématiques de saisonnalité. Donc, c'est sûr que l'hiver, si une entreprise décidait d'opérer juste l'hiver, oui, on aurait beaucoup de main-d'œuvre à fournir, mais malheureusement, beaucoup d'activités économiques se passent durant l'été, puis tout le monde s'arrache la même main-d'œuvre. Donc, pas parce que le taux de chômage est élevé qu'automatiquement, il faut penser qu'il y a du monde disponible. Ces gens-là travaillent dans l'industrie saisonnière, puis c'est comme ça en Gaspésie. Puis on veut extensionner la saison touristique. On le fait d'ailleurs depuis quelques années. Les pêches, la même chose. Il y a un travail énorme qui a été fait. Mais il reste que ça va être dur d'aller pêcher au mois de janvier dans le golfe Saint-Laurent.
Non, on peut pas changer ça. Donc, cet aspect de la saisonnalité, ce
sera... Exactement.
Et si demain, on prend tous ces travailleurs-là pour les mettre à temps plein à l'année, ben ça marchera pas.
On va vider toutes les emplois saisonniers, les industries, la pêche, du tourisme. Donc, effectivement, c'est particulier. Puis, il faut faire attention au raisonnement mathématique là, magique.
Ben, la question de la pénurie de main-d'œuvre, ça va venir nous toucher parce qu'on parle beaucoup d'immigration. Ça aussi, là, le fédéral aura un rôle à jouer là, pour aider davantage justement à cette pénurie, à ce manque de travailleurs.
Beaucoup, beaucoup de demandes de la part des industriels, des gens d'affaires pour simplifier les démarches pour attirer de la main-d'œuvre étrangère. On le voit, c'est extrêmement complexe parce que, par exemple, dans le domaine de la pêche, les gens doivent utiliser la main-d'œuvre strictement dans certaines fonctions spécifiques. Par exemple, on ne peut pas travailler dans deux, trois postes différents au sein d'une même entreprise. Donc,
et même changer d'entreprise.
Encore moins changer d'entreprise. On ne peut même pas passer d'un poste à l'autre au sein de la même entreprise. Fait qu'on est loin d'aller d'une entreprise à l'autre. Ça va à l'encontre, par exemple, de ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Dans l'agriculture, ça a été réglé. On peut avoir une polyvalence des travailleurs étrangers, mais dans le domaine des pêches, on n'a pas amené la même exception ou la même mesure n'existe pas. Ça va même à l'encontre de toute la belle démarche que le secteur des pêches a mis en place dans l'industrie avec un regroupement qui, sous l'égide de M. Jean-Paul Shannon à l'époque, avait mis en place un regroupement d'une douzaine de 100 travailleurs d'usines qui pouvaient se déplacer puis travailler dans différentes usines sur le territoire, parce que ces travailleurs-là étrangers ne pourraient pas faire partie de ce nouveau mode de fonctionnement-là qui faisait en sorte que dorénavant, les gens, des travailleurs des différentes usines de pêche pouvaient travailler, non pas 14 semaines, mais on parle de 20, 25 et même 30 semaines à cause de cette polyvalence-là. Malheureusement, nos travailleurs étrangers ne pourraient pas rentrer dans ce nouveau mode de fonctionnement-là. Donc, il va peut-être falloir que les deux paliers de gouvernement se parlent pour qu'on simplifie la tâche à nos entrepreneurs, parce que présentement, c'est coûteux. On parle d'entre 10 et 15 000 $ pour chaque employé qui vient travailler ici de façon saisonnière. Puis en plus, on a des contraintes là, qui pourraient être réglées s'il y avait une volonté là, de simplifier la tâche de nos entreprises, c'est clair.
Ben, parmi les autres dossiers, sûrement qu'on va discuter, la question des ports, cession des ports, s'est entamée depuis des années.
C'est difficile de passer sous silence le port de mer de Gaspé. Hein? Oui. C'est un dossier qui a été reconnu par tous les MRC de la Gaspésie comme un dossier régional prioritaire qui fait consensus, c'est le développement du port de mer de Gaspé, la porte d'entrée pratiquement du Québec. Hein? Ça, c'est un dossier aussi là, où il n'y a pas de développement à ce niveau-là. On a un quai qui a un potentiel incroyable, mais qui n'a pas été développé. Puis, ça mériterait des investissements pour le remettre à niveau. On a mis en place une ZIP, une zone industrielle portuaire, et tout ce qu'on a réussi à faire dans les trois dernières années, c'est faire une étude pour savoir est-ce qu'il y a un potentiel. Y a-t-il quelqu'un qui doute du potentiel du port de mer de Gaspé? Ouais. C'est abrutissant. Là. On a mis, je pense, 125 000 $ pour faire une étude qui est sûrement complétée. Mais là, qu'est-ce qui arrive de la stratégie maritime? Qu'est-ce qui arrive des négociations de transfert avec Ottawa? Ça, c'est un dossier, je suis certain, où la ville de Gaspé va probablement adresser ses attentes là, au gouvernement fédéral.
Alors, je reviens sur deux autres dossiers qui étaient sur juridiction fédérale à l'époque, la question du rail en Gaspésie, le chemin de fer, et aussi les aéroports. Est-ce que le fédéral devrait à nouveau venir en aide à la région dans ces deux cas-là?
Bien, excellente question. Puis, ça fait pas longtemps, là, on parle de 1996. Dans le cas du chemin de fer, c'est en 1996 que le fédéral a abandonné le secteur, le tronçon, c'est-à-dire Gaspé-Chandler. Et 10 ans plus tard, le gouvernement fédéral a transféré le tronçon Chandler-Matapédia au milieu. Souvenons-nous, à l'époque, c'est 4 MRC qui étaient propriétaires du chemin de fer. Et ensuite, Québec, en 2015, en a pris la propriété. Donc oui, historiquement, le chemin de fer a toujours été sous l'emprise là, ou sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Mais bon, ça a été abandonné malheureusement au milieu. Et aujourd'hui, c'est Québec qui en est propriétaire. Est-ce qu'on pourrait penser une implication financière du fédéral? Pourquoi pas? Les transports sont tellement un dossier prioritaire dans plusieurs régions, dont la Gaspésie, que moi, j'invite les leaders et les élus municipaux à se questionner, à savoir est-ce qu'on prend pour acquis là, que le fédéral a transféré autant les aéroports. Hein? Ici, c'est en 1998 que Transport Canada a cédé à la ville de Gaspé l'aéroport. Puis ça s'est fait ailleurs aussi dans d'autres milieux. Est-ce que Québec et les régions ne devraient pas envisager peut-être une certaine implication de la part du gouvernement fédéral dans ces deux juridictions-là, que sont le chemin de fer et l'aérien, qui ont déjà été largement de propriété et de responsabilité fédérale. Puis là, ça a été transféré. Puis on dirait qu'on prend pour acquis que c'est fait, puis il n'y a plus rien à faire. Mais je suis convaincu, moi, qu'il y a une réflexion sérieuse à faire à ce niveau-là. Puis c'est le temps d'adresser la question quelques mois avant les élections. Pourquoi ne pas en faire un enjeu? En tout cas, tout du moins en Gaspésie, on verra qu'est-ce que la balance du Québec fera. Mais ici, en Gaspésie, la question est très pertinente. Puis pourquoi pas demander un retour là, au plan financier, hein, un retour d'engagement du gouvernement fédéral dans ces deux domaines-là où on a beaucoup d'investissements de requis. Les aéroports, Québec a fait son bout en décembre dernier. Le gouvernement a annoncé des investissements intéressants dans 4 aéroports, mais il y a encore de la place à amélioration, notamment au niveau des équipements d'aide à la navigation, mais aussi au niveau d'un transporteur. Le fameux dossier du transporteur, on va avoir des aéroports qui vont être mis à niveau. Mais un aéroport avec un transporteur qui charge encore 1500 pièces du billet, ça va servir à qui? Encore strictement l'appareil gouvernemental. Donc, la population gaspésienne ne pourra pas se payer ce service-là encore. Les touristes, probablement pas non plus. Même les gens d'affaires, est-ce qu'on a moyen de payer 1500 $? Donc, est-ce qu'on pourrait commencer à travailler sur un plan au niveau du futur transporteur qui pourrait vraiment desservir la région? Et finalement, améliorer hein, le système en place avec Air Canada, qui finalement, oui, on a un service intéressant, mais inaccessible financièrement. Donc, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
On verra. Donc, la campagne n'est pas encore amorcée. Ça s'en vient. Il y a déjà quand même des candidats. On sait que bon, Diane Boutillier se représente pour le Parti libéral. Et aux conservateurs, on a déjà annoncé nos couleurs aussi.
Oui, au niveau du conservateur, c'est M. Jean-Pierre Pigeon. Côté du Bloc québécois, c'est M. Bernat Chey.
Qui vient de...
Qui a son investiture en fin de semaine, si je ne me trompe pas, mais c'est pratiquement confirmé. M. Bernat Chey, le maire de Mont-Louis. Et du côté du NPD, je ne crois pas qu'on a entendu de candidature à date. Donc, il y a quand même trois candidats en lice. Donc, je suis certain que ça va bouger dans les prochaines semaines et les prochains mois.
À suivre.
Faisons nos devoirs si on veut que le gouvernement puisse faire les siens.
Merci Gaétan Lelièvre et on se reparle.
Merci.